Aujourd'hui, on va se pencher sur la question suivante qui est: la vitesse d'un site est-elle importante en SEO? Pourquoi c'est de l'actualité en ce moment? C'est parce que Google a récemment annoncé que l'expérience utilisateur d'un site aura désormais un impact sur sa visibilité en SEO. Et comme toute annonce de Google, il faut à la fois la remettre dans son contexte et prendre du recul. Début juin 2020, Google a fait une annonce qui a eu beaucoup d'écho parce qu'elle concerne les facteurs de positionnement d'un site en SEO. Un extrait assez parlant, c'est: nous tiendrons bientôt compte de la convivialité des pages parmi les centaines de signaux utilisés par Google pour classer les résultats de recherche. Et Google a également insisté en novembre sur ce point, en plus d'annoncer une date au déploiement de cette prise en compte de ces nouveaux facteurs en mai 2021. Mais en bref, l'expérience utilisateur d'un site aura un impact sur ses positions dans les résultats de recherche, mais diluée dans un ensemble de nombreux facteurs. Alors, prenons du recul pour juger de l'importance réelle de cette annonce pour le SEO. L'objectif de Google, c'est d'organiser les informations à l'échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous. Son moteur de recherche, c'est évidemment l'outil principal de sa mission. Alors, il s'affine en permanence pour répondre aux internautes en leur apportant les meilleurs contenus dans les meilleures conditions. Le premier volet de la pertinence des contenus, c'est le cœur originel de l'algorithme du moteur. Le second, celui de l'expérience utilisateur, c'est une préoccupation plus récente de Google, mais qui est bien réelle. Google pousse pas mal pour que les sites adoptent des technologies qui facilitent la vie des utilisateurs, notamment dans la vitesse des sites. On pense à l'AMP, au PWA, au format image WebP. Les webmasters ont donc plus seulement le fond de leur site à travailler, c'est-à-dire le contenu. Il faut aussi soigner la forme, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. La vitesse des sites, c'est bien une priorité pour Google. L'annonce de Google sur le poids de la vitesse dans le positionnement d'un site en SEO, elle suit toute une tendance de Google par rapport à la vitesse et surtout le déploiement des nouveaux indicateurs de performance relatifs à l'expérience utilisateur. Google, c'est pas qu'un moteur de recherche, dispose aussi d'équipes de développeurs très impliquées dans l'amélioration des standards du web, notamment à travers la mesure de la web performance, c'est-à-dire la rapidité de chargement d'une page et de l'UX en général. En 2019, début 2020, il y a eu de nouveaux KPI qui ont vu le jour, qui s'appellent les signaux web essentiels, les Core Web Vitals en anglais. Il y en a trois et c'est ceux-là qui sont le cœur de la mise à jour Page Experience de Google qui arrivera en mai 2021. Ces trois KPI, c'est le LCP, le FID et le CLS. Le premier, le LCP, le Largest Contentful Paint, indique le délai avant l'affichage du plus grand élément visuel d'une page. Le deuxième, le FID, c'est-à-dire le First Input Delay, ça indique la latence d'interactivité du site. Quand l'utilisateur clique sur un lien, sur un bouton qui est censé actionner une fonctionnalité sur le site, plus c'est long, plus c'est frustrant. Donc c'est cette réactivité que mesure le FID. Et enfin, on a le CLS, c'est-à-dire le Cumulative Layout Shift, qui mesure la stabilité visuelle d'une page, typiquement si des éléments se déplacent avant la fin du chargement. C'est assez courant sur les sites médias où on a le titre de l'article qui s'affiche, ensuite son image, donc on commence à lire et à scroller, mais ensuite se charge une publicité, souvent en vidéo, qui décale tout l'ensemble de la page déjà chargée. Donc c'est cette frustration que va quantifier le CLS. La web performance en SEO, ça a toujours été une priorité. Et on a donc toujours eu des KPI à surveiller, notamment trois principaux sur lesquels c'est toujours utile de revenir. On a commencé le Time to First Byte, le TTFB, c'est-à-dire le délai de réponse du serveur à une requête de Google ou de l'internaute pour renvoyer le début d'un fichier, pour faire court. On a ensuite le FCP, c'est-à-dire le First Contentful Paint, le délai avant l'affichage du premier élément visuel d'une page web. Ça indique au moins à l'internaute que le site réagit parce qu'il charge quelque chose. Enfin, quelque chose de plus facile à mesurer et qu'on retrouve dans beaucoup d'études et de benchmarks, c'est le Speed Index. C'est le délai avant l'affichage des éléments au-dessus de la ligne de flottaison. Donc évidemment, ça dépend de la taille de l'écran de l'utilisateur, s'il est en desktop ou en mobile, mais c'est quelque chose d'assez homogène et consensuel. Et évidemment, selon les outils et ce qu'on cherche à mesurer, il y a beaucoup d'autres KPI de web performance qui sont pertinents au cas par cas. Et cette année, plutôt 2020 et leur poids va arriver en 2021, Google a progressivement déployé les Core Web Vitals dans un mouvement global en les intégrant à ses différents outils. On a tout d'abord le CRUX, c'est-à-dire le Chrome User Experience Report. Ce sont des données récoltées parmi les utilisateurs du navigateur Chrome de Google avec les vitesses de connexion respectives des utilisateurs et aussi bien sur desktop que sur mobile. Ces données, elles sont d'une part mensualisées, d'autre part propres à chaque page et au site dans son intégralité. On peut aussi les retrouver dans la Search Console de Google. La Search Console, c'est l'outil de diagnostic global d'un site web en SEO sur Google, et ce sont les données du CRUX qui remontent, avec d'une manière plus précise pour qu'on puisse en tirer des analyses. Et enfin, on retrouve ces données dans les outils classiques de web performance de Google qui sont PageSpeed Insights et Lighthouse. Si on récapitule, Google insiste donc sur l'expérience utilisateur et son potentiel impact en SEO, pour une fois en maniant la carotte avec les nouveaux outils mis à disposition, et le bâton, c'est-à-dire les pertes de visibilité. Mais est-ce que ces nouveaux KPI et la vitesse de chargement d'un site, en général, vont avoir un poids important en SEO? Est-ce qu'elles en ont déjà un? Est-ce qu'il va être plus fort? Là, il y a un gros doute. Du coup, depuis cette annonce de Google, on a évidemment une multitude d'articles qui tombent, qui déclarent sans trop de nuances que l'UX est un nouveau facteur de positionnement pour Google. La vitesse est importante en SEO. Alors que dans les faits, et même dans la communication de Google, les signaux web essentiels vont s'ajouter à la brique Page Experience des facteurs de positionnement, dont le poids est infime. Les précédentes annonces de Google sur les signaux UX ont eu honnêtement très peu d'impact lors de leur déploiement. Un site qui n'est pas HTTPS peut quand même se positionner sans problème. Un site avec des interstitiels est généralement peu dérangé. Et un site mal optimisé en mobile, lui aussi, il peut se débrouiller assez bien. Alors, il y a évidemment des facteurs de positionnement qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus anciens que des préoccupations UX. Évidemment, le site le plus pertinent reste le mieux positionné, le site avec les meilleurs liens, la meilleure ancienneté des liens, la meilleure autorité restera très bien positionné. Donc, par rapport aux facteurs de positionnement traditionnels forts et évidents, les nouveaux facteurs de positionnement sur la vitesse et l'UX, ils vont être très clairement assez faibles, ils ne feront pas la différence pour rattraper un site qui n'a pas fait son travail de base en SEO ou qui est trop petit par rapport à ses concurrents. Donc, en SEO, honnêtement, est-ce que la vitesse sera un chantier à prioriser par rapport aux autres chantiers traditionnels qui sont clairement des chantiers de croissance en SEO? La réponse, pour faire court, c'est non. Par contre, un site qui a un chargement inefficace, mais vraiment inefficace, il s'expose à des risques assez particuliers. Si par exemple Google n'arrive pas à charger les ressources essentielles d'une page, notamment celles qui sont en charge du responsive design, voire celles qui génèrent le contenu ou les liens, ça arrive avec des frameworks JS mal configurés, où très peu de choses s'exécutent côté serveur. Si ce genre de choses arrive, Google risque d'avoir une vue partielle du site et risque d'ignorer certaines pages, voire le contenu de certaines pages. Donc, la vitesse d'un site peut avoir des impacts en SEO au niveau de la technique, mais c'est au-delà, c'est des facteurs avant même les problèmes de positionnement, c'est des facteurs au niveau de l'exploration et la compréhension du site par Google. Par contre, si l'impact sur la visibilité naturelle d'un site n'est pas une menace assez crédible à destination des éditeurs de sites, Google sait quand même insister sur ce qui fait mal, c'est-à-dire la finalité d'un site, en général site e-commerce, les conversions. Pour s'adresser à un public de décideurs, Google fait produire des études par des cabinets de conseil sur les attentes et les usages des internautes. Il en ressort des chiffres assez marquants, comme un taux de conversion amélioré de 8% grâce à un gain de temps de chargement de 0,1 seconde, et inversement, passer de 3,5 secondes à 2,5 secondes de chargement, ça porterait 27% de conversion. Autant de chiffres assez convaincants pour un public de décideurs par rapport à l'intérêt de la vitesse d'un site. Au final, toutes ces considérations vont dans le bon sens. La finalité d'un site, ce n'est pas que sa visibilité, c'est évidemment la perception de la marque, et au final, les conversions des utilisateurs, les achats des leads ou des pages vues. L'amélioration de l'expérience utilisateur, ce n'est pas qu'une expertise, c'est surtout une démarche globale dans laquelle on trouve plusieurs grandes étapes. Premièrement, auditer la web performance du site pour identifier les chantiers à mener. Ensuite, améliorer progressivement la convivialité de l'expérience utilisateur dans un objectif de conversion. Et enfin, mesurer les gains des chantiers déployés à travers l'évolution des KPI de référence.